bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux de participer à ce colloque sur les 70 ans de Elle. Et je voudrais tout d'abord remercier Sophie Kurkdjian et Maud Bass-Kruger pour leur invitation. Donc, ma communication aujourd'hui interroge les liens entre le magazine féminin, Elle, et Prise Unique entre 1949 et 1969. Et j'interrogerai la façon dont on peut percevoir ces relations comme une mafia du style. Et je développerai l'hypothèse de travail d'un écosystème de la mode à travers le prisme de la médiation. Je commencerai cette communication par la question du style qui se pose à la fois dans le magazine Elle et aussi dans le Prise Unique, qui est un magasin populaire. Et ce faisant, tous deux, Elle et Prise Unique, mettent en question la question de la dilution du goût du haut en bas de l'échelle sociale. Dans le contexte de la France d'après-guerre, ce qui se joue, et Sophie l'a rappelé, c'est l'essor du prêt-à-porter qui a pris du retard en raison notamment de la prégnance de la haute couture. La couture à la maison avec les patrons reste des pratiques très répandues et très communes auprès des Françaises jusque dans les années 50. En 1950, le vêtement tout fait, le vêtement manufacturé, représente encore les deux tiers de la production des vêtements, alors qu'il pèse 90% de la production américaine, comme le rappelait Nancy Green dans son livre « Du sentier à la 7e avenue ». Dans la presse, les magazines Elle et Jardin des modes, comme on le voit ici, perçoivent l'enjeu de cette robe manufacturée et ils posent la question de la robe toute faite. Le Jardin des modes en 1954, ici à droite, met en couverture deux robes de confection, deux robes Boussac à 3500 francs. C'est la première fois et la journaliste Maïmé Arnaudin, qui a réalisé ce reportage, couvre les défilés de haute couture. Elle connaît toute l'élégance d'une tenue, mais elle se pose la question, elle se demande comment font les femmes. Comment font les femmes qui ne peuvent se payer les essayages avec la première d'atelier, avec la spécialiste du flou, qui ne peuvent se payer effectivement une robe d'une maison de couture. Alors les Français procèdent, et c'est la conclusion de Maïmé Arnaudin, comme elles peuvent à des rafistolages. Quand la main n'est pas très sûre au moment de couper le tissu et le précieux tissu du patron. Donc sa démarche, celle de Maïmé Arnaudin, qui est journaliste au Jardin des modes à l'époque, est la même, exactement la même, que celle de Claude Brouet, qui a été évoquée précédemment. Et par exemple, dans cet article de 1957, Claude Brouet s'interroge comment s'habille la jeune famille française. Alors Hélène Lazareff, la fondatrice de Elle, a observé le marché américain. Les professionnels du textile en France aussi ont perçu, lors des missions de productivité de 1953 et 1955, comment se fait cette robe toute faite. Et ils en ont tiré la conclusion que la mode et le prêt-à-porter peuvent s'organiser, peuvent s'émanciper de la haute couture. La problématique de cette robe toute faite se pose aussi dans un magasin populaire, tel que Prise Unique. Et ce qui marque à ce moment-là, c'est l'image extrêmement paupérisante de l'enseigne Prise Unique. Et elle saute aux yeux de son directeur, Jacques Guéden, qui prend la direction de Prise Unique en 1945. Pour rappel, Prise Unique a été créée en 1931 sur le principe du prix unique. Il n'y a que 5 prix chez Prise Unique. De 1,5 franc à 10 francs. Et les robes pour femmes sont faites dans des ateliers parisiens et elles y sont vendues 1/20 du prix d'une robe de couturier. On y vend principalement de la confection, une version basique du vêtement. Le succès de Prise Unique a été très très important. Il y avait 60 magasins en 1939 et cette expansion se poursuit après-guerre. La chaîne passe de 100 magasins en 1950 à 200 magasins en 1955. Et à la fin des années 60, les 350 magasins Prise Unique font de la chaîne la plus puissante centrale d'achat en Europe. Mais le prix unique, juste après-guerre, le prix unique de cette chaîne qui a fait la fortune des premiers jours se révèle complètement absurde, parce que pour respecter ce prix unique, on y vend, par exemple, les chaussettes séparément. Tout comme... voilà. Alors, il faut réorganiser la centrale d'achat, qui est engorgée par 8000 références. Et cette réorganisation s'est accompagnée d'un constat consternant. Ceux qui sont trop jeunes pour avoir connu cette période ne peuvent imaginer la laideur des produits vendus dans les magasins dits populaires, disait Maïmé Arnaudin. Et je vois Dominique Veillon qui sourit. La confection qui a précédé le prêt-à-porter était importable. C'était au mieux de la robe tablier améliorée. On ne trouvait alors aucun jean en France. Le patron de Prise Unique a exactement la même conclusion. Il disait « Ce qui n'est pas beau en France est souvent laid, honteusement laid, pour un pays qui se targue de détenir tout le goût du monde et qui en donne la preuve quand il produit le luxe. » Donc, supprimer la laideur n'est pas une utopie, une politique de style. Et par style, j'entends cette adaptation d'une création à des propositions concrètes est possible. Jacques Guédel embauche en 1953 une ancienne championne de patinage artistique que vous voyez représentée ici à gauche. C'est Denise Fayol. C'est une fonceuse. C'est une bagarreuse. D'emblée, elle critique les produits et les choix des acheteurs et veut démontrer que le beau peut se vendre aussi. Alors Denise Fayol démarre avec le textile pour femmes, hommes et enfants. Et quand je suis entrée à Prise Unique, disait-elle, j'étais toute seule au début et j'ai commencé par la confection féminine. C'était la jungle. Les acheteurs n'étaient pas habitués à ce que quelqu'un vienne critiquer et proposer de nouvelles choses. Donc les premiers efforts de Prise Unique sont remarqués par le magazine Elle, qui est très enthousiaste. Ces deux pages sont la continuation d'un article dont je vous ai montré la première page, « La jeune fille française s'habille bien pour rien ». Donc, quelle est la place accordée par Elle à cette politique de style? J'insisterai sur la période 1959 à 1969, où la couverture de Prise Unique par le magazine et les journalistes est sans commune mesure avec celle accordée aux autres magasins populaires, comme Monoprix par exemple. De 1959 et 69, chaque année, le magazine, Elle, consacre des pages éditorialisées à la collection été de Prise Unique. Ces pages sont réalisées par la rédaction, par les photographes du magazine, dans des articles de 4 doubles pages qui portent la mention « Tous ces articles sont en vente dans vos prises uniques ». Toute une terminologie arrive sur cette pratique du « beau pour tous » qui sont annoncés en couverture, sont un rendez-vous régulier avec les lectrices, avec ses lectrices. Ça commence en 1959. Le titre de cet article est « Elle et lui s'habillent pour 4 fois rien ». C'est une référence dans les pages intérieures de ce papier. Là, vous voyez une référence au tarmac, le tarmac d'avion, qui est quelque chose d'assez exceptionnel et qui est souvent, à l'époque, plutôt associé aux stars hollywoodiennes, descendants d'avion. Ce n'est pas une pratique commune. La moitié de ce reportage est en couleur parce qu'il faut le rappeler, une grande partie du journal est encore en noir et blanc. En 1960, on voit ici un article qui s'appelle, consacré à Prise Unique, « Silence, on admire ». Peter Knapp vient juste d'arriver comme directeur artistique à Elle et il crée un bandeau de films qui court tout le long des 8 pages de ce reportage. En 1961, quelles affaires? Nous n'en revenons pas. 3 pages sont en couleur. En 1963, c'est l'invasion du Liberty. Le titre en est « Des prix champions ». En 1964, il ouvre avec un article qui s'appelle « Mettons-nous en campagne ». En 1965, « En route pour le Madras ». En 1966, « En été, en beauté, en liberté » introduit là une distinction entre les magasins Prise Unique et les magasins qui sont estampillés « Collection Prise U ». En 1967, la rédaction part en Mauritanie pour faire ce reportage qui s'appelle « Une fille, un garçon, un pays envoûtant, une mode vacances ». Non pas 8 pages, mais 12 sont consacrées à la collection Prise Unique. En 1968, la rédaction est partie en pays berbère, je cite, sur tous les fronts, la mode au beau fixe. Et cette série de reportages sur Prise Unique et les collections de Prise Unique s'achève en 1969 avec un cahier de 18 pages qui représente non seulement le prêt-à-porter, mais aussi les accessoires, les meubles de la collection de Prise Unique, tous les accessoires. Donc on voit que la couverture que fait elle de Prise Unique est tout à fait particulière. La question qui se pose est quelle était la nature de l'accord éditorial, commercial, qu'il y ait Prise Unique au magazine. Nous n'avons pas eu accès aux archives commerciales de elle. Il y a donc plusieurs hypothèses d'un accord de publicité entre elle et Prise Unique. Denise Fayol a démarré au studio Prise Unique en 1953. Elle n'avait aucun budget publicitaire. Et lorsqu'elle doit quitter la chaîne de magasins en 1967, son budget lui permettait de financer des pages de publicité dans plusieurs publications, comme notamment elle, mais aussi Mademoiselle Achetendre. Et un ancien cadre de Prise Unique évoque un système où les fabricants payaient Prise Unique pour les affiches qui étaient réalisées par le studio et étaient déployées dans le magasin à un tarif surfacturé. Et cela permettait à la chaîne de dégager une marge et un budget publicitaire. Donc une hypothèse serait dès lors qu'un accord avec elle prévoyait avec Prise Unique des pages éditoriales non payées et des pages de publicité payante comme celle que vous voyez ici, qui est une publicité pour la semaine de la laine chez Prise Unique et qui est un destin fait par Michel Bélic, un des directeurs artistiques du journal, auquel s'ajoutait un nombre croissant de publicités, comme l'a évoqué Sophie Curbjean tout à l'heure, un nombre croissant de publicités faites par les industriels. Ici, Indreco, dont la présence publicitaire augmente de façon importante dans les années 60, avec deux publicités, une à gauche, une publicité réalisée par Peter Knapp, le directeur artistique de AL à gauche en 66, et à droite, une publicité réalisée par Guy Bourdin, un photographe, en 1968. Donc au-delà de l'accord commercial, l'éditorialisation de ce beau pas cher dans le magazine Elle correspond à une ligne stratégique très forte du journal. Il y a toute une terminologie que j'ai évoquée, le beau pas cher, des prix champions qui émergent. Et cette politique de style a été perçue comme une forme de démocratisation du beau dans la France d'après-guerre. Et elle résonne de façon d'autant plus inédite qu'elle émerge du commerce populaire comme Prise Unique, qu'elle est relayée par un magazine féminin et au fond contredit cette dilution du goût du haut en bas de l'échelle sociale. Les journalistes de Elle et la rédaction s'emparent de cette problématique avec ardeur. Claude Brouet explique qu'elle n'aurait jamais raté un défilé de Prise Unique. Elle est responsable de cette rubrique prêt-à-porter qu'elle a créée et qu'elle porte depuis 1953 et elle doit alimenter 52 numéros par an. Donc cette éditorialisation a été perçue à ce moment-là comme une mafia du style. C'est l'objet de ma deuxième partie, de la deuxième partie de cette communication. La résonance du magazine Elle est considérable depuis l'après-guerre. Son lectorat compte 2 millions de personnes, de femmes et d'hommes dans les années 60. Et les journalistes de Elle, Claude Brouet, mais il faut aussi insister sur le rôle de Nina Dosset, elles étaient appelées les Danton et Robespierre de la mode. C'est une expression que rappelait Didier Grimbach dans son livre « Histoire de mode ». Comment l'illustrer ? Le magazine Elle choisit en 1968, par exemple, de présenter à ses lectrices, en août 68, ce que sera la mode d'hiver à petit prix. Et le reportage, ici représenté, est signé Helmut Newton. Sur les 40 articles présentés sur ces 6 pages, 32 sont des articles Prise Unique. Ce qui amène la réflexion suivante d'une journaliste professionnelle. Depuis 6 mois environ, on ne peut ouvrir un journal féminin ou un magazine de mode sans retrouver son nom, à côté d'un modèle, d'une robe, d'un pullover. C'est la consécration pour une styliste d'accéder à cette sorte de vedettariat. Mais le stylisme, ce n'est pas le cinéma. On ne se fait pas un nom en 6 mois. Qui est cette styliste évoquée dans cette réflexion et dans cet article, et qui visiblement fait grincer des dents? Le magazine Elle ne parle jamais de Denise Fayolle pendant ces 10 ans et 520 numéros de Elle que j'ai consulté. Seules 2 mentions sont faites sur Denise Fayolle au détour d'un article. Donc le vedettariat qui est évoqué n'est pas celui d'une personne, en fait c'est la patte d'une styliste qui visiblement est évoquée, et c'est celle de Maïmé Ardonin que vous voyez représentée ici en 1965 dans son bureau de style qui s'appelle Maïmé Ardonin Promotion. Elle l'a créée en 1960 dans une esthétique résolument moderne, Square Jasmin, et elle vend des cahiers de coloris. Elle s'adresse à la filière professionnelle, à la profession. Elle conseille des filateurs, des tisseurs, des fabricants de tissus sur les tendances 18 mois à l'avance. Et elle crée des collections de prêt-à-porter pour des confectionneurs et des fabricants de prêt-à-porter. Et c'est dans le vivier des collections élaborées, dans les collections élaborées par Maïmé Ardonin Promotion, qu'elle va puiser. Et c'est dans l'agence de Maïmé Ardonin Promotion qu'une partie des collections vendue à Prise Unique est faite. Donc le triptyque Prise Unique, Maïmé Ardonin Promotion et Elle recouvre en fait un trio qui est Denise Fayolle, Maïmé Ardonin et Claude Brouet, 3 femmes qui sont animées par une volonté commune, promouvoir une idée du style. Donc nous faisons l'hypothèse d'un écosystème de la création de mode qui est compris sous l'angle de la médiation, comme l'a exploré le chercheur Thierry Maillet dans sa thèse sur les échantillonneurs textiles. Comment s'articule cet écosystème de la création de mode dans l'exemple de la robe tablier? Qu'est-ce que la robe tablier? C'est un vêtement d'intérieur, c'est un vêtement de travail ou connotation sociale marquée. Prise Unique demande, dès les années 50, quand Denise Fayolle arrive, elle demande sans cesse à son fournisseur, le fabricant Indreco, de lui proposer une robe tablier portable, attrayante, sur le portant, car les clients de Prise Unique n'ont pas de vendeuse pour les conseiller dans le magasin. Donc le fabricant Indreco, Léon Kligman, est assez décontenancé. Lui qui a investi en 1954 dans un atelier de confection ultramoderne ne sait comment faire une robe à la mode. Denise Fayolle lui conseille de s'adresser à sa partenaire, Maïmé Ardonin. Et la robe tablier que vous voyez ici photographiée dans la campagne d'Indreco par Peter Knapp, alors directeur artistique de Elle, a subi une totale transformation. Une transformation de forme, une transformation de couleur, une transformation d'harmonie, et même le nom a changé. Son nom change en shift, car alors les US, c'est style. Elle est enthousiaste et se fait l'écho de cette robe tablier, donc, dont on voit un certain nombre d'exemples ici. En 1965, effectivement, la robe tablier n'a plus grand-chose du vêtement utilitaire. Sa transformation résout ce que l'universitaire Armand Hatchwell soulève comme la loi des reins du designer et qui s'applique à la mode, créer un objet inconnu qui séduise et surprenne sans jamais dérouter. Le succès de ce shift que vous voyez représenté ici est immédiat. En 1965, Indreco vend 700 000 de ses robes tabliers dans ses 5 usines françaises. Donc cette communication soulève l'hypothèse de travail que ce processus est le résultat d'une interaction fonctionnelle entre les acteurs de la création de mode. C'est le dernier point que je voudrais aborder. Alors que les sciences de gestion abordent la création de mode comme un processus assez linéaire, allant de la création à la production, puis à la distribution et enfin à la promotion, l'approche de la médiation permet d'illustrer le rôle des intermédiaires dans le faire de la création de mode. La publicité que vous voyez à gauche illustre cette interaction fonctionnelle qui émerge alors dans le processus de création de mode. Figurent ici les acteurs de cette robe bain de soleil vendue 30 francs à Prise Unique. En haut à gauche figure le logo de Printemps Prise Unique, PP. En bas à gauche, le logo du bureau de style qui a réalisé cette campagne et ce produit, Maïmé Ardonin Promotion. Et figure aussi les termes et les marques de Prise Unique et Florine, sa marque pour femmes. dans un jeu typographique très clair, et aussi le logo du fabricant de tissu, Valak, le carré qui est avec une diagonale. Tous ces logos étaient faits par le même ensemble de design de graphistes. Gérard Kaufmann, qui travaillait alors chez le fabricant de tissu Valak, qui a fait ce tissu, explique le processus de la façon suivante. Maïmé Arnaudin faisait les dessins, elle a trouvé Valak comme imprimeur de tissu, puis elle a trouvé Indreco, le confectionneur, et derrière, enfin, Prise Unique distribuait. La boucle était bouclée. Aujourd'hui, cela paraît normal. À l'époque, c'était génial, d'une intelligence. Une fois rentré dans le circuit, on savait que derrière, cela allait sortir. La consommatrice l'aurait 18 mois plus tard. Ajoutons que dans cette interaction fonctionnelle, le rôle de elle, qui photographie la robe bain de soleil et l'a emmenée dans ce reportage en Égypte que vous voyez à droite. Et donc le magazine, elle, est partie prenante de ce processus créatif. Pour illustrer ce processus créatif émergeant de cette communauté d'acteurs, le tableau suivant analyse le parcours de quelques-uns des talents de cet écosystème, une analyse des carrières professionnelles, que ce soit celle de Peter Knapp ou de Roman Sislevich ou d'André Putman, par exemple, illustre la porosité, l'extrême porosité des milieux de la presse, des milieux des bureaux de style, des fabricants et du commerce. Cette communication veut montrer que l'émergence du style passe par cette porosité fonctionnelle. Et de cet écosystème émerge une diversité de créations qui fait autorité. Cette autorité est venue en 1968, par exemple, de la 14e Triennale de Milan. La 14e Triennale de Milan de 1968, l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes et de l'architecture moderne, avait pour sujet le grand nombre. Et Prise Unique et les designers de cet écosystème figurent parmi les ambassadeurs de la création française. On y voit là les cahiers de coloris et les cahiers de coloris de Maïmé Arnaudin. Donc cette sélection récompense au fond et légitime ce qu'André Putman appelait ce clan novateur et idéaliste, qui rejoint Maïmé Arnaudin et Denise Fayol lorsqu'elle crée leur agence en 1968, après le départ de Denise Fayol de Prise Unique en 1967. Le nom de Mafia, qui est en fait une abréviation de Maïmé Arnaudin Fayol International Associé, est un sous-entendu malicieux à une bande de mafiosi. Qui sont ses associés? Ce sont ceux qu'Arnaudin et Fayol emmènent avec elle chez le notaire pour déposer les statuts de l'agence. Et il y a là Nina Dosset de Elle. Il y a là aussi André Putman et aussi Antoine Kéfer, que ce qu'on appelait les patronnes à ce moment-là, ont convaincu de quitter Vogue pour les rejoindre. Tous portent l'uniforme des mafiosi, un costume unisexe entièrement blanc. Le blanc en est la signature, c'est le chic ultime auquel visiblement André Putman ne se prête pas dans la photo de famille. Elle est au dernier rang. Le magazine Elle salue à sa façon la création de cette mafia. De ces mafiosi, l'agence toute blanche. Dans ce reportage sur les chemisiers réalisé en 1969, Sarah Moon a situé le shooting de ce reportage dans l'agence, qui a beaucoup impressionné par son architecture et sa décoration. On voit aussi la porosité des liens et des talents avec cette page de 68, d'un imperméable Prise Unique, dans un article de Claude Brouet, où le décor a été réalisé par Roman Sislevich. Roman Sislevich, qui est directeur artistique chez Mafia. Donc ce clan et ces mafiosi travaillent ensemble. On y trouve Roman Sislevich, comme je vous le disais, mais aussi le dessinateur Follon, Georges Lemoine, Roland Topor, Alain Le Foll, les photographes Elmu Newton et Guy Bourdin, qui ont tous collaboré aussi avec le magazine Elle. Et la rédaction. Donc je vais citer ici quelques réalisations que Mafia a réalisées pour ses clients et dont les publicités figuraient dans le magazine Elle et qui constitueront en fait une sorte de double miroir des talents qui travaillent chez Mafia et qui travaillent chez Elle. Pour conclure, je voudrais s'illuminer une hypothèse de recherche évoquée par le chercheur Thomas Paris pour comprendre le processus de la créativité dans le design et la mode. Pour lui, la créativité est la rencontre d'un désir, d'un outil dans un marché, mais il souligne la capacité d'une organisation à créer de la diversité. Et cette communication visait à souligner l'interaction fonctionnelle qui existe à ce moment-là et qui émerge et qui s'articule à ce moment-là entre les journalistes, les stylistes, les designers et photographes, et à contribuer à créer une diversité de créations appliquées au style, telle qu'elle émerge d'un magazine féminin, du studio de création, d'un magasin populaire et d'une agence de style. Je vous remercie. Thank you.